Bonjour tout le monde. Bon mercredi, milieu de semaine. On a beaucoup de choses à discuter ensemble ce matin. Vous avez vu cette annonce-là. François Legault, c'est assez inusité, va nous parler à 17h ce soir, cet après-midi, fin de journée. On sera en diffusion, bien sûr, sur nos ondes. Vous aurez toute l'info là-dessus. Que va nous dire François Legault? On s'attend déjà à ce qu'il resserre la vis, en particulier dans certaines régions. Il a commencé à en parler un petit peu hier en conférence de presse. Et là, je pense qu'on l'a souvent dit, hein, 13 heures, bon, c'est la routine. Quand c'est 15 heures, un petit peu plus important, mais 17 heures, c'est sérieux. Alors, nous serons là, bien sûr, à l'écoute, et vous aussi, j'en suis sûre. Ça nous donnera l'occasion, en deuxième heure, de voir ensemble si tout ce qui s'est dit depuis les dernières 24 heures, puis sans doute qu'avec ce que François Legault va annoncer à 17 heures, ça risque peut-être de changer vos plans pour Pâques. Alors, en deuxième heure, c'est de ça dont on va discuter ensemble. Aviez-vous l'intention d'aller visiter la famille, la belle-famille, les amis? Autour de moi, là, je le vois, là, ça bouge. Les gens ont fait des plans. Comme je vous dis, en début de semaine, on a comme déconfiné dans notre tête un peu. Alors, les gens commencent à bouger plus. François Legault a un peu pointé du doigt les jeunes hier, un peu même pas à peu près, là, en disant qu'un jeune sur deux était peut-être pas assez responsable puis qu'ils voyaient quand même leurs amis à ne pas faire. Bref, on discutera de ça tout à l'heure. En première heure d'émission, ben, mon collègue Paul Arcand vous en a parlé et j'entendais ce dernier auditeur qui disait que c'est comme un drame social qui est en train de se jouer en ce moment dans le dossier du logement. Un peu partout au Québec, d'ailleurs, il y a la situation qui est assez importante à Montréal. On s'en est souvent parlé au cours des dernières semaines, vous et moi. Mais là, on a, au cours des derniers jours, vu l'augmentation des cas d'éviction, en particulier dans certains quartiers. On pense à Montréal-Nord, ça a l'air que c'est une plaie. Mais dans d'autres quartiers également de Montréal, de la ville, il y a des locataires qui essayent de garder leur logement, mais qui n'ont pas le choix de quitter pour toutes sortes de raisons. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, la date limite, le 31 mars, pour recevoir votre avis d'augmentation de loyer si vous êtes locataire. Si vous êtes propriétaire aussi, c'est la dernière journée pour en envoyer un. Est-ce que c'est possible de se trouver encore un logement abordable aujourd'hui au Québec par rapport aussi à la flambée des prix de l'immobilier, les coûts de construction? Bref, c'est le sujet que j'aimerais aborder avec vous et avoir vos commentaires là-dessus. Alors, n'hésitez pas à nous parler de votre situation 514-790-9850. Un peu partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Martin Blanchard est avec nous. Il est travailleur communautaire pour le Comité logement de la Petite Patrie à Montréal. Bonjour, Monsieur Blanchard.
Bonjour, Madame Maréchal.
Avec nous également, Hans Brouillette, directeur affaires publiques de la CORPIC, la Corporation des propriétaires du Québec. Bonjour, Monsieur Brouillette.
Bonjour, Madame Maréchal.
Faisons le tour ensemble de la situation. Je commence avec vous, Martin Blanchard. Vous dénoncez ce qui se passe en ce moment. Notre question, c'est de savoir, est-ce que c'est encore possible de se trouver un logement abordable? Quelle est votre réponse?
Ah, c'est quasiment impossible. Et en fait, depuis plusieurs années, dans le quartier de la Petite Patrie, les autres quartiers centraux, on est dans une crise de logement. Mais on retrouve maintenant cette crise qui est rendue jusqu'aux quartiers périphériques, donc Montréal-Nord que vous avez cité. Côte-des-Neiges, je travaille un peu avec l'organisme L'Œil Côte-des-Neiges qui a des gros problèmes d'éviction en ce moment. Je pense entre autres à un immeuble de 180 locataires qui se font évincer. Donc, les locataires perdent leur logement et se retrouvent à essayer d'en trouver un et il y en a plus de disponibles pour des locataires des classes moyennes, pas seulement les locataires qui ont des revenus précaires, mais aussi ceux des classes moyennes. En ce moment, par exemple, un 3,5 dans Petite Patrie, là, si vous arrivez à en trouver un, ça va être 1 200 $ et plus par mois. Quand on fait un revenu, par exemple, en bas de 40 000 $ net, ça va nous appauvrir de payer un tel montant pour se loger. Fait que c'est très difficile, ça va mal pour les locataires en ce moment. Et à votre question, je réponds, c'est quasiment impossible de se trouver un logement abordable en ce moment.
Est-ce qu'il y a beaucoup de reprises de logements, de hausses de loyers abusives, ce que vous considérez comme étant abusif? Je disais aujourd'hui que c'est la date limite là, pour recevoir l'avis d'augmentation de loyer ou pour l'envoyer. De ce que vous en savez, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont su un avis d'augmentation qui vous paraît à vous abusif?
Ben oui, surtout qu'en ce moment, les propriétaires ont des baisses de taxes municipales, des baisses de taxes scolaires. Donc, au fond, ils font un peu plus de revenus avec l'ILA grâce à ces baisses de taxes, mais les locataires ne profitent pas de ces baisses. Donc, tous les locataires qui devraient recevoir une baisse de loyer, au fond, selon l'esprit de la loi, reçoivent une augmentation. Ça fait qu'on est déjà dans une problématique. Mais en plus de ça, là, ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on reçoit au comité logement, c'est des locataires qui ont des hausses de 100 $, 250 $, 400, 500. Le record qu'on a eu, Mme Maréchal, c'est 900 $ d'un avis de hausse de loyer. Évidemment, les locataires devraient les refuser, mais d'un autre côté, ils ont peur des représailles parce que les propriétaires, depuis nombre d'années, font des évictions et des reprises frauduleuses. On a un rapport en décembre 2020, après 5 ans d'enquête, qui démontre que les cas qu'on a enquêtés, ben, dans 85% des cas, les évictions et les reprises, c'était des opérations malveillantes, spéculatives, qui contournaient l'esprit de la loi pour pouvoir, au fond, juste faire hausser le loyer. Donc, les locataires ont peur de ça. Ils ont peur de se retrouver à la rue, ils ont peur des représailles, ils ont peur du harcèlement, ils ont peur de... Ils vont accepter des hausses abusives.
Mais là, parlez-moi de la hausse, 900 $ pour un logement seulement d'augmentation de loyer par mois?
Oui.
C'était quoi exactement ce logement-là?
Écoutez, j'ai pas suivi ce dossier-là personnellement. Là, je ne sais pas si le locataire a refusé la hausse. Évidemment, il a suggéré de la refuser, là.
Et 900 $, ça n'a quasiment pas de bon sens. J'aurais été curieuse de savoir ce que c'est. Avant de dire qu'il y a eu des augmentations de 900 $ sur un logement, il faudrait savoir de quel logement. Oui. Ça devait être une grosse maison. Ou... En tout cas, si vous pouviez, pendant que je pose des questions à M. Brouillette, avoir un peu d'infos là-dessus, je serais bien curieuse, puis je pense que les auditeurs aussi, de savoir c'était quoi cette augmentation de 900 $ par mois d'un loyer. Là. Bon, Hans Brouillette, vous êtes porte-parole des propriétaires, en tout cas de la Corporation des propriétaires du Québec. Quand vous entendez dire que les locataires ont peur de se retrouver à la rue et qu'en même temps, ben, les propriétaires en profitent, surtout qu'il y a eu baisse de taxes foncières. Moi, je m'en étais pas rendu compte vraiment à Montréal, dans mon quartier, mais y a-t-il eu baisse de taxes vraiment?
Faut faire attention. Il y a plein de situations, on pourra les explorer ensemble, mais quand on parle des taxes, effectivement, à Montréal, il y a gel des taxes municipales. Dans certains cas, il va y avoir des hausses, d'autres cas, il va y avoir des baisses. Ça dépend du rôle foncier qui est à chaque année à Montréal. En tout cas, la valeur de l'immeuble fluctue à chaque année. Pour ce qui est des taxes scolaires, oui, il y a eu une baisse. Donc, les raisons, les motifs qu'un propriétaire pourrait invoquer devant le tribunal pour obtenir une hausse de loyer vont être beaucoup moins évidentes cette année. Moi, je pense qu'il y aura très peu de fixation de loyer dans les cas où les locataires auront refusé l'avis là, ou l'augmentation. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de propriétaires là, qui aillent en fixation cette année. Mais moi aussi, j'aimerais entendre M. Blanchard, quand on lance des chiffres comme ça à la radio là, qui impressionnent, là, 900 $ d'augmentation de loyer, il y a des anecdotes, il y a des phénomènes aussi. Mais je pense qu'il faut être un peu plus rigoureux. Je pense notamment à l'étude dont ils font part là, concernant les évictions. On nie pas qu'il y a des évictions, mais de la façon dont c'est présenté, ce sont des chiffres qui
sont... Mais il n'y en a jamais eu autant, par exemple, M. Brouillette. Puis je pense que on le voit quand même. C'est une situation, je veux dire, le bon bout du bâton ou le bon bout du 2x4, comme je le disais l'autre jour avec les auditeurs, c'est pas les locataires qui l'ont. Dans un marché en effervescence comme ça, on le voit, là. C'est le propriétaire qui a l'embarras du choix. On a vu une file de gens qui attendaient l'autre jour, je pense que c'était dans le quartier Rosemont, pour un logement qui était à 985 $ de mémoire. Il y avait une file là, jusqu'au coin de la rue. Là. Ça faisait quasiment toute la rue. Les gens attendaient à la queue là, pour aller visiter le logement. Le propriétaire avait le beau rôle. Là. Il avait le beau jeu d'augmenter comme il voulait. Puis en même temps, on dirait qu'on oubliait... J'entendais tout à l'heure, même dans l'émission de mon collègue Paul Arcand, j'entendais les locataires dire que c'est pas possible de savoir comment l'autre a payé. Mais dans le fond, le locataire d'avant... le propriétaire, il est tenu quand même. Là, il y a une petite case sur le bail. Il n'est pas tenu de dire au nouveau, à nouvel occupant, au nouveau locataire, combien l'ancien payait. Il y a une case spéciale où ça met ça. Ça dit l'ancien locataire payait tant. Donc, le nouveau le sait. Et on voit s'il y a une augmentation qui est abusive.
Ben, abusif, c'est ça le problème, c'est que les comités logements prétendent que c'est abusif d'augmenter un loyer de 200 ou 300 $. Ça dépend. Peut-être que ce loyer-là était anormalement bas parce que le locataire a habité là pendant des années, ou peut-être que le logement a été rénové. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de propriétaires disent « Ben non, je ne vais pas annoncer quel était l'ancien loyer, on va me ramener à l'ancien montant. » Ou encore, je ne vais pas annoncer quel était l'ancien loyer avant les rénovations, on va m'accorder 2 $ d'augmentation de loyer par tranche de 1 000 $
Est-ce que c'est au goût, ça, de le dire, ou c'est une obligation de la part du propriétaire?
C'est une obligation, mais ceux qui ont rénové le feront pas. Puis, moi, sincèrement, je les défends. Je les défends, que ce soit illégal, immoral aux yeux de certains. Ne remplissez pas cette case-là, je vous le dis, là, puis c'est illégal. Ne la remplissez pas si vous venez de faire des rénovations. Vous risquez de ruiner vos rénovations.
Mais oui, mais M. Brouillard, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire en disant c'est illégal, mais faites-le pas pareil de ne pas le faire. Comprenez, vous dites c'est pas légal de ne pas le faire, mais faites-le pas pareil.
Oui, je le dis parce que le propriétaire va se faire fixer son loyer de façon rétroactive. Il va perdre l'investissement en travaux. L'autre possibilité,
mais je comprends votre point. Non, mais attendez, parce que ce bout-là, il est important, puis je suis sûre que M. Blanchard va vouloir dire quelque chose. Là. Je travaille pas pour le comité de logement à la petite patrie, mais logiquement, c'est la loi qu'il faut changer. Si vous estimez, puis on a souvent eu cette discussion, M. Brouillette,
si vous
pensez que c'est pas correct, puis que les propriétaires n'ont jamais le bon bout du bâton, mais c'est plus large comme discussion, mais s'il y a une case sur le bail à remplir, ben il faut la remplir, vous comprenez? Puis après, bon, ben on peut discuter avec les gens, ils peuvent être. Mais je pense que le propriétaire qui aurait de la misère à la remplir, cette case, c'est peut-être qu'il y a un problème. Là. Puis peut-être qu'il
il y a un problème de fond, vous avez raison. Mais regardez, je vais vous arriver avec une autre solution.
Allez-y.
Supposons qu'on dit, très bien, on va la remplir, la section G. Remplissez-la tous, la section G. Vous savez ce qu'il y a des propriétaires qui vont faire? Ils vont tout simplement garder le logement vacant pendant un an. Et au bout d'un an, il n'y a pas de contrôle de loyer. Donc, on pourra remettre le loyer au marché. Est-ce qu'on préfère ça? Est-ce qu'on préfère des propriétaires qui ne remplissent pas la section G du bail ou on préfère des propriétaires qui vont garder le logement vacant un an alors qu'il y a une demande très forte présentement? C'est son droit. Ça, c'est parfaitement légal de garder le logement vacant.
Est-ce pour ça qu'il y a un taux d'inoccupation comme on a rarement vu à Montréal?
Non. Là, ce qui se passe, on peut rentrer dans les cas plus anecdotiques, là, mais de façon globale, il faut comprendre que beaucoup moins d'immigrants qui arrivent au Québec. Donc, quand on dit qu'il y a des évictions, qu'il y a des reprises de possession pour différentes raisons, c'est pas pour créer des locaux commerciaux, là. C'est parce qu'il y a des gens, des familles, des ménages, des personnes seules qui vont les habiter, ces logements-là. Le problème, c'est pour ceux qui perdent leur logement. On est bien d'accord, ça va être difficile pour eux de retrouver dans le marché un loyer aussi avantageux que ceux qu'ils avaient. Mais quand on reprend un logement pour y loger sa famille, ben bon Dieu, c'est pour loger des parents ou des enfants. Quand on subdivise, c'est pour créer plus de logements. Quand on rénove, je le sais que ça coûte plus cher ensuite d'habiter là, mais quand on rénove, c'est pour préserver le parc puis garder un intérêt pour la location. Il s'est construit dans les 3 dernières années, en moyenne, là, entre 40 et 50 000 habitations au Québec par année.
Ouais.
L'industrie...
Ça ne veut pas dire que c'est abordable, par exemple, M. Brouillard. Ça ne veut pas dire que c'est des logements abordables. On va s'arrêter ici. Je veux juste, parce qu'il y a la pause, il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. On va laisser parler nos auditeurs. Je veux juste aller voir M. Blanchard, voir s'il y a eu le temps d'avoir un peu plus d'infos sur ce 900 $ d'augmentation de loyer par mois. M. Blanchard?
Oui, non. Ben, écoutez, non, j'ai pas cette information-là. Là. C'était un cas à la permanence qui a été rapporté à l'automne passé. Les cas, ils sont rapportés des cas d'augmentation abusive régulièrement et c'est ce qui se passe sur le terrain.
Mm.
Mais moi, je trouve ça renversant qu'un représentant d'une association de propriétaires appelle à l'illégalité. Imaginez ce qui se passe sur le terrain si le représentant de l'association des propriétaires dit publiquement « faites des gestes illégaux ». Imaginez ce qui se passe sur le terrain lorsqu'on n'a pas les yeux publics braqués là-dessus. Là.
Ouais.
Ça va vraiment, c'est vraiment difficile ce qui se passe actuellement. Et je voudrais quand même remettre les choses en perspective.
Pouvez-vous le faire après la pause, vite?
Oui.
Vous me donnez une chance, vous êtes fin, merci beaucoup. On va à la pause, on revient tout de suite après et on prend les commentaires de nos auditeurs, bien sûr. Tenez-moi au courant de votre situation de logement en ce moment. On essaie de voir, y a-t-il un endroit où c'est encore possible de se loger de façon abordable? Évidemment, si vous avez eu des augmentations de loyer qui vous paraissent abusives, je veux le savoir. C'est quelqu'un qui est au courant du 900 $ d'augmentation de loyer. Moi, je suis preneuse de l'info. 514-790-9850 de l'extérieur. Vous faites le 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. Alors, on va vous parler tout de suite, Antoine, parce que je veux vous entendre là-dessus. Vous êtes locataire dans le quartier Mercier. Ça se passe comment pour vous au niveau du logement?
Oui, en fait, moi, je suis dans un trop... Bonjour d'abord. Je suis dans un trop petit logement. Fait qu'en décembre, on a voulu louer un nouveau logement... un 5,5 qui était affiché à 1 500 $, c'était une cession de bail. Quand on a dit qu'on avait des enfants, soudainement, il n'était plus disponible, puis ça n'intéressait plus de nous louer. Et il s'est entendu finalement avec l'ancienne locataire pour casser le bail. Elle a dû payer quelques mois. Et là, il est réapparu sur le marché à 1 750 $ 2 mois plus tard. En ce
Alors que
moment,
le loyer initial était de combien, vous me disiez?
de 1 500. Donc
1 500, donc 250 $ de plus par mois.
Exactement.
Ouais.
Donc, c'est ça la réalité. Et puis, je trouve ça très intéressant d'entendre comment, selon Monsieur Brouillette, les propriétaires sont tous des philanthropes qui évincent les gens pour créer plus de logements et par philanthropie. Et je pense pas que ça reflète la réalité et la
Et
majorité
vous,
des
Antoine, donc,
clients.
vous êtes où, là? Vous allez être où?
Ben, on est toujours dans notre petit logement, puis on est en train d'essayer d'acheter beaucoup plus loin sur l'île pour.
Ah, c'est ça, vous allez quitter Montréal, donc? Vous regardez pour quitter Montréal?
Soit quitter Montréal, soit aller vraiment comme Pointe-aux-Trembles ou des endroits où il n'y a pas de métro, pas de où c'est encore presque achetable.
Ouais, c'est ça. Si vous avez la mise de fonds, évidemment, c'est peut-être une
Exact,
situation à
c'est ce qu'on
regarder.
se dit. Ouais.
Voilà. Ben merci de votre appel, Antoine. Bonne chance dans votre recherche. Kamal, bonjour. Vous habitez dans le quartier Rosemont. Vous êtes locataire, c'est bien
Oui,
ça?
tout à fait. Oui, tout
Oui.
à fait, Madame Maréchal, oui.
On vous écoute?
Alors, dans ce cas, c'est je rejoins l'avis ce monsieur, l'avis de Monsieur Blanchard. Moi, chaque année, je fais l'évaluation de, comment on appelle ça, d'augmentation de loyer à chaque année chez eux, au comité de logement. Alors, le propriétaire, à chaque fois, il joue ce jeu-là. Cette année, il m'appelle au téléphone, il me dit, vous avez 20 $ d'augmentation. Je dis rien du tout. C'est juste, il faut se limiter à la loi. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi de régie de logement,
Ouais.
la régie de logement. Alors là, il dit, est-ce que cela, ceci, est-ce que ça vous va 15 $? Il m'envoie un papier 15 $. Je réponds avec la lettre que non, je ne suis pas d'accord parce que l'augmentation, c'était calculé 1 $ 94 pour 5 000 de travaux à l'extérieur de mon logement. Alors, des lieux communs. Alors, communes. Alors, dans ce cas, 1,94 et 3,87 $ pour 10 000 $ de travaux.
Ouais.
Alors, il me dira, non, c'est 2 points, quelque chose, c'est 0,6 cette
OK.
année.
Donc, vous êtes
Et
en
c'est.
chicane avec votre propriétaire. Je comprends ça, Kamal, parce que vous dites, en fait,
Gentiment.
l'augmentation qui m'impose, elle n'est pas justifiée par le montant de travaux. Et là, il y a effectivement le pourcentage. Merci, Kamal. Ça m'amène peut-être à beaucoup de réactions, Andy Brouillette, par rapport à ce que vous avez dit par rapport à la section G du bail, là. Et aussi, là, la situation de Kamal. Quand il dit, ben, moi, comme locataire, je vois bien qu'on n'a pas fait, le propriétaire, il n'a pas tellement emmieuté mon logement. Il n'a pas fait des travaux à l'hôtel de ce qu'il dit, ou même quand il le dit, il y a des propriétaires qui vont dire, ben oui, mais je ne suis pas capable de financer, moi, ces travaux-là, juste ne serait-ce qu'avec les loyers non plus. Quel est votre argumentaire là-dessus, Hans Brouillette?
Ben, écoutez, il n'y a aucun intérêt à faire des travaux en 2021. Là, c'est un amortissement sur 43 ans. Donc, vous ne savez pas, puis ça rejoint aussi peut-être des réponses que des gens aimeraient avoir concernant la section G du bail. Si un propriétaire fait des travaux, que ce soit pour un logement qui est occupé ou non occupé, s'il y a contestation du nouveau loyer, la régie, en fait, le tribunal administratif du logement maintenant, va accorder 2 $ de plus sur le loyer pour 1 000 $ de travaux. Ça prendrait plus que 500 mois pour récupérer l'argent. Donc, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Raison pour laquelle, si un propriétaire remplit la section G du bail pour le nouveau locataire alors qu'il a mis, je ne sais pas moi, 30 000 $ de travaux dans le logement, il peut se retrouver le lendemain matin avec une fixation de loyer rétroactive qui va ruiner son investissement. C'est extrêmement grave.
Ouais.
Mais c'est la raison aussi pour laquelle il y a aussi peu de rénovation qui se fait au Québec. Mais je comprends pour des locataires de passer d'un loyer qu'ils occupent, par exemple, à 700 $, à essayer de trouver un nouveau logement puis c'est rendu à 1 000. Pour eux, et je les comprends, c'est énorme. On a les loyers les plus bas au pays, mais est-ce qu'on a les taux d'intérêt les plus bas au pays? Bien sûr que non. Les primes d'assurance les plus basses, on est soumis au même marché mondial que tout le monde. Les coûts de main-d'œuvre, les coûts de matériaux, on se compense qu'au Québec, ça coûte moins cher. Alors, comment justifier cette différence de 25-30% par rapport au loyer moyen au pays? Bien, on
ouais.
le voit. C'est le parc de logements est en décrépitude, puis des propriétaires sont tannés de louer, ils préfèrent reprendre les logements pour leur famille, ou des promoteurs, il y en a aussi, transformer les logements et les relouer plus cher.
Mais c'est tout le débat, puis ça, je pense que plus ça va aller et plus ça va demander véritablement un grand débat de société là-dessus. Parce que c'est l'investissement versus le droit fondamental de chacun à se loger à coût raisonnable. Et ça, il y a une propriétaire qui m'écrit, là. Elle dit, je suis propriétaire occupante d'un petit triplex dans Petite Patrie. Donc, je comprends qu'elle occupe une partie de son triplex, le reste est loué. Je trouve qu'on parle jamais du fait, me dit Christine, que les propriétaires sont forcés de subventionner les locataires. Le prix des logements est encore grandement en dessous des prix d'achat immobilier. Christine rajoute, on est tous d'accord avec le principe du logement social, mais on demande aux propriétaires de payer la facture. Si on choisit en tant que société de payer pour les locataires, on devrait aussi subventionner les propriétaires pour que le prix des loyers reflète la valeur des immeubles. Je trouve ça intéressant la façon dont elle l'amène. J'ai envie d'aller me tourner vers Martin Blanchard. Là-dessus, Martin Blanchard, comme travailleur communautaire pour le comité logement de la Petite Patrie, ce que dit M. Brouillette, ce qu'on entend de la part des propriétaires, êtes-vous d'accord avec ce débat nécessaire là, sur la question du logement? Parce qu'en même temps, c'est vrai que pour les propriétaires, le logement, c'est un investissement. Pour les locataires, ben, c'est un droit de se loger. Il faut que ça reste raisonnable comme prix. Comment peut-on arriver à arrimer les deux mentalités?
Bien, je pense que ce qui est arrivé, c'est que les mentalités ont changé par rapport à ce que c'est qu'être un propriétaire bailleur. Il y a eu ce qu'on appelle une financiarisation du logement locatif. On n'est plus dans une logique où un propriétaire bailleur voit le logement comme un investissement à moyen et long terme. Non, les propriétaires veulent des rendements tout de suite. Il y a des fonds communs d'investissement dans le marché locatif, ce qu'on appelle des REITs, qui sont des grosses compagnies qui possèdent des 60 000 unités de logement et plus, et qui voient ça comme étant des investissements de même nature que l'investissement en bourse. Et bien sûr que là, on veut un rendement immédiat, on veut que les locataires payent rapidement toutes les rénovations qui sont faites, mais on ne tient pas compte de la situation particulière du logement locatif. Quand les propriétaires font des rénovations, ils ont des déductions fiscales. Les hausses de loyers sont composées, là, c'est des hausses qui se rajoutent aux hausses chaque année. Et la valeur de l'immobilier, la valeur de l'immeuble va augmenter, même si on ne fait aucun entretien. Alors imaginez, si on fait des entretiens, la valeur augmente. Et les locataires ne vont jamais empocher ces profits-là. Donc, il est faux de dire que ça prend 40 ans à récupérer son investissement. Il est faux de dire que les propriétaires se retrouvent à subventionner les locataires. Au contraire, ça n'a jamais été aussi payant d'investir dans l'immobilier que maintenant. Il se fait des profits faramineux. Pourquoi vous pensez qu'il y a autant de gens qui rentrent dans le marché? Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le marché et qui n'ont pas les reins pour faire de l'investissement immobilier. Il faut tenir un immeuble pendant plusieurs années, alors qu'il n'y a pas... c'est pas un restaurant, là. Faut pas qu'il y ait des revenus à chaque mois pour qu'ils remboursent tout.
Peut-être que les gens vont sur le marché beaucoup en ce moment, M. Blanchard, puis on va voir ça après la pause avec un courtier immobilier, mais probablement plus pour la valeur marchande, la revente finalement de l'immeuble ou de la propriété. C'est sur le gain à faire en capital là-dessus. Pas tellement sur la location à long terme. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de propriétaires ont choisi même de faire de la location à court terme, genre à la Airbnb ou autre genre de plateforme, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui m'écrivent en ce moment, qui me disent « Moi, plus jamais je vais louer mon logement à un locataire qui va me déchiqueter mon plancher ou m'arracher mes portes d'armoire. » Alors, il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a des deux côtés des arguments. On va s'arrêter ici, très courte pause. Après la pause, justement, on va parler à un courtier parce qu'il y a toujours la question de la surenchère qui prédomine le marché puis qui contribue aussi. C'est un des facteurs qui fait que la situation du logement est telle qu'elle est. À tout de suite, tout le monde. Il y a Diane qui m'écrit, et là, je ne sais pas si Antoine qui m'a appelé tout à l'heure, le locataire qui a une petite famille, qui habite dans Mercier, qui se cherche un logement, qui nous disait que peut-être il allait être obligé de quitter Montréal, qui était bien découragé. Bien, il y a Diane, Antoine, qui vous propose son logement. Elle dit qu'elle est propriétaire dans Mercier-Est. Elle a entendu l'entrevue avec vous comme père de famille, puis ça l'a vraiment touchée. Elle dit qu'elle a un bas de duplex à louer. Et elle lui louerait à Antoine. Elle trouve que c'est une bonne personne qui a un beau problème, si elle peut le régler. Moi, j'aime ça quand on règle les problèmes. Alors, Antoine, rappelez-nous, on va vous mettre en lien avec Diane. Et Diane, merci, merci de cette proposition. On a Ali, qui est un propriétaire dans Montréal-Nord, un lieu où on le disait d'entrée de jeu tout à l'heure. On voit pas mal d'évictions. Bonjour, Ali. Vous en voyez autour de vous, je pense, hein?
Bonjour, oui. En tout cas, il n'y a pas d'éviction. Il y a un immeuble, l'immeuble qui est vraiment situé à côté de le mien, il a été vidé au complet. Mais avant, il faut savoir pourquoi il a été vidé au complet. C'est que là, il avait 4 locataires qui ont brisé, détruit les logements. Donc, il refait l'immeuble au complet. C'est ce côté-là qu'on parle pas beaucoup. C'est-à-dire les investissements qu'on doit faire pour mettre un logement qui a de l'allure pour le louer. Et Montréal-Nord, si on parle de Montréal-Nord, dites-moi, est-ce que encore sur l'île de Montréal, des loyers qui sont en bas de 600 pièces pour un 4,5? Ça n'existe pas. Moi, ça fait plus que 25 ans que j'ai acheté à Montréal-Nord. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai même pas fait $1 dans mes poches, on va dire, à partir de cet immeuble.
Ouais.
C'est tous les investissements que j'ai faits. OK, on parle de OK, tu gagnes, c'est-à-dire sur la valeur de l'immeuble.
Voilà, mais c'est ça. Jour, c'est oui, sur la valeur oui, que vous allez vous y retrouver.
Attends, je suis d'accord avec vous. Mais quand on rembourse l'hypothèque, la partie qui va sur le capital, je suis imposé dessus, ça devient un revenu pour moi. Mm-hmm. Et le jour que je vends, je paie encore sur le gain de capital, je suis doublement imposé.
Ouais.
Ça, c'est d'un côté. Moi, je me demande, est-ce qu'on est une société capitaliste ou socialiste? Parce que si on veut faire ça, le gouvernement, il doit subventionner les loyers.
Non, mais on a la réponse. Là. Posez-vous pas la question trop longtemps. On est une société capitaliste, là. C'est clair.
Oui,
là.
Mais le gouvernement se lave les mains. C'est ça ce qu'on veut.
Non, mais le gouvernement, il tire son jeu. Il fait son jeu aussi de ça. Ali, le gouvernement, il est hypocrite dans la mesure où il nous le dit pas officiellement, mais c'est très payant, ne serait-ce que pour les taxes sur le capital. Puis, quand il s'agit d'immeubles à revenus, il y a beaucoup d'impositions. Écoutez, il y a même une tendance, là, Pierre-Yves Maxwin en parle régulièrement, il y a même une tendance qui penche pour qu'il y ait même une imposition du gain en capital sur la résidence principale. Ça, là, pour moi, là, c'est le bout de tout. Ça serait le bout de tout, cette affaire-là. Il n'y a pas de subvention là, aux gens pour acheter un logement. Là. Tu le payes avec tes revenus, tes économies, ton serrage de ceinture personnelle. Je trouve que le gouvernement, on cherche tellement de l'argent partout là, qu'on ne sait plus dans quelle poche du contribuable fouiller à un moment donné. On a juste deux poches. Juste deux. Il n'y en a pas d'autres.
Si vous permettez, juste pour la loi de régie de logement. Elle n'a jamais été, c'était depuis les années 70, là. C'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau. Moi, je vous le dis, j'ai été une seule fois à la régie de logement pour un loyer non payé de 3 mois. C'était à peu près 1 500 $. Ça m'a coûté des frais. Après ça, il fallait valider le jugement à la cour. Ça m'a coûté un autre 600 pièces, plus les huissiers et tout ça. À la fin, la personne, elle a déclaré faillite. J'ai rien reçu.
Ouais, ouais. En général, c'est comme ça que ça se passe, Ali. Ouais. Merci beaucoup. On va aller voir tout de suite Daniel Adam, courtier immobilier agréé. Il est courtier hypothécaire également. Bonjour, Daniel.
Bonjour, Isabelle.
J'ai Sylvain qui m'écrit, qui est un courtier immobilier aussi depuis plus de 30 ans. Il est également gestionnaire de logements. Puis il dit le prix des logements en ce moment, ça reflète tout simplement la valeur des immeubles. Il y a 3 ans, un immeuble, ça se vendait environ 15 fois les revenus nets. Puis aujourd'hui, c'est 25 fois. Alors, même à 25 fois les revenus nets, il n'y a aucune rentabilité. Les propriétaires n'ont pas le choix d'augmenter les revenus. Et surtout qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui déménage, ça coûte de l'argent. Lui, il dit que c'est à peu près 4 000 minimum pour remettre le logement en état de location. Il y a tout ça. Est-ce que c'est juste, Daniel Adam, de voir ça comme ça?
Oui, il y a une bonne situation qu'on peut regarder de cette façon-là. Parce que c'est sûr que le coût du logement, j'ai eu des logements pendant plusieurs années, j'en ai plus aujourd'hui. Mais tu sais, de remettre des logements en état, j'ai eu le droit à ça quelques fois. J'ai eu des logements détruits, comme parlait de votre personne juste avant. C'est pas toujours évident, ou des problèmes de drogue, ou peu importe ce que c'était. Là, tu sais, fait que oui, le coût des logements, la régie du logement nous propose, parce qu'on va dire que c'est proposé, là, les augmentations. C'est pas imposé. Des augmentations qui, quand on fait des rénovations, on a le droit à 3 % des parties sur 30 ans. Donc, si on change un toit, puis il faut qu'il soit bon 30 ans, sinon on n'est pas rentabilisé dans notre investissement. Alors, c'est difficile et je comprends les propriétaires avec les coûts des immeubles à revenus qui montent actuellement. J'ai vendu un 6 logements récemment dans Oma. Le plus cher, je ne sais pas si je devrais gagner un trophée pour ça, mais 1 775 000 pour
un 1 million combien?
575 000.
Chez Laga Maisonneuve?
Oui, on fera Laga Maisonneuve
Oh.
C'est quand même assez particulier. C'est au financement, ça demande des gens qui ont beaucoup plus de comptants que le 15% que le moment nécessaire pour la SCHL. Les gens doivent débourser 25 puis 30% de mise de fonds pour pouvoir l'acheter, le financer, parce que le financement se fait sur des valeurs économiques et non pas sur des prix payés.
Mais ça, c'est carrément de l'investissement, là. Ça, c'est quelqu'un
qui... c'est de l'investissement. Il faut le garder pour 20 ans, sinon, c'est pas pour spéculer.
Là, il y a une augmentation du pied carré aussi, Daniel?
Oui. Ben, en fait, si on regarde les studios, moi, je connais bien le centre-ville là, autour du Forum, OK, dans l'ancien Children Hospital, dans ce secteur-là que je connais bien. Je regarde le projet qu'a fait Devinco, là, qui s'appelle Alexander. Les studios de 397 pieds carrés se louent 1425, ce qui représente 3,59 le pied carré, ce qui est énorme. Le centre-ville, on va dire, à peu près en moyenne, c'est 3 $ le pied carré. Quand on inclut des services, il faut comprendre, on va inclure le chauffage, on va inclure l'Internet, on va inclure les éco-ménagers, une piscine, un gym, sécurité, ici, ça. Là. Mais les gens paient en moyenne 3 $ le pied carré, correctivement. Plus on va s'éloigner du centre-ville, on peut tomber à 2 $ le pied carré, 1 $ et 15, 1 $, c'est rare. T'sais.
Alors que c'était 1 $ et quelques il n'y a pas si longtemps.
Oui, c'est ça. Puis il commence à réavoir des line-up pour louer des logements. Genre, j'ai une amie qui a posté sur Facebook hier sur la rue de Galt dans Verdun, un 4,5. 975, il devait y avoir 30 personnes en ligne pour aller visiter. C'est assez particulier. Moi, j'ai eu ça dans le plateau quand j'avais des appartements, des 30, 40, 45 personnes sur le balcon qui attendaient pour visiter. Ça m'est déjà arrivé. Mais de revivre ça aujourd'hui, c'est particulier. Puis j'essaie de comprendre pourquoi. Puis je suis allé voir l'année passée, en 2020, au début de l'année, les 3 premiers mois de l'année, les locations, disons, au centre-ville. Alors, il s'est loué 55 appartements, non, 19 appartements l'année passée, en 92 jours. Donc, ça se loue quand même assez bien. Puis le prix moyen était 2200, quand même, pour des catégories. Hein, c'est quand même, c'est le centre-ville, il faut comprendre. Mais cette année, les 3 premiers mois de l'année, nous montrent des loyers qui prennent 139 jours à louer. Donc, c'est plus long à louer. Et les loyers sont rendus à 2000. Quand on voit un peu partout, puis qu'on lit un peu partout que le centre-ville est en train de perdre un peu de son lustre, bien, oui, il y a des occasions de location. La dernière fois qu'on était en ligne, d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui était à Tour des Canadiens qui disait bien, je louais 1500, puis là, j'ai de la misère à louer 1200.
Ouais,
c'est une réalité. On le voit là, dans les locations. Donc, cette année, il s'est loué beaucoup plus de logements au début d'année, donc les 3 premiers mois qu'on vient de vivre, que l'an passé. L'an passé, on avait le début de la COVID, on va dire. Là, mais là, les gens ont comme eu... ils veulent bouger parce qu'ils entendent parler qu'il y a peut-être des occasions. Ben, des fois, 100, 200 piastres de moins par mois sur un loyer, ben, pour un couple, ça peut être beaucoup d'argent. T'sais. Si on veut rester au centre-ville, évidemment.
Mais là, c'est fou, là. C'est fou. Et est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on arrive bientôt? Là, les gens posent la question. Ça va-tu finir bientôt ou ça va continuer d'augmenter? Cette surenchère-là, a-t-elle une fin? Aura-t-elle une fin sous peu?
Ben, les voies à Toronto puis Vancouver, ils vont avoir une réponse, peut-être, là. C'est sûr que Montréal se situe peut-être 16e ville d'importance au Québec, là. Je suis au Canada, je veux dire, en termes de coût des loyers. On n'est pas Toronto, on n'est pas Vancouver, là. On est quand même dans le 16e, là, sur le tour d'une cinquantaine de grandes propriétés au Canada. Mais on reste dans des loyers, on va dire, raisonnables pour le Québec, là.
Est-ce que ça veut dire qu'on a été gâté, Daniel Adam, pendant toutes ces années où on payait vraiment, comme locataire, on était vraiment, vraiment, vraiment choyé. On payait vraiment pas cher. Parce que là, finalement, on est dans le tiers de ce que je comprends, 16e sur 50 des villes par rapport au coût du logement.
Ouais.
On pourrait dire, bon, c'est pas si mal, étant donné que Montréal est quand même la métropole d'une des provinces qui forme, à peu près le quart de la population canadienne. Donc, finalement, si on regarde ça, on se dit, ben, est-ce qu'on se plaint pour rien? Est-ce que les locataires sont habitués, finalement, à avoir eu des avantages que, là, bon, le marché les rattrape? Est-ce que c'est ça?
Ça a presque tendance à dire ça. Puis si je me mets à dire ça, tout le monde va protester. Mais on est dans une situation aussi politico-économique. Hein? Il y a le côté français-anglais. Les Européens qui viennent ici louer des logements nous trouvent nos prix de logement dérisoires. Okay? C'est aussi ce qui a fait monter le coût des logements, d'une certaine façon, les Européens qui sont venus ici, les étudiants qui viennent d'étrangers qui viennent ici. Pour eux autres, un placard se loue 1500 en Europe, puis ici, on leur donne un 4,5 pour 1500, ils sont comme, c'est extraordinaire.
Ouais. Alors, il y a non, mais on ne veut pas non plus que ça soit la situation comme dans des villes comme Paris, par exemple, en Europe, non, c'est ça, là, c'est où tu es obligé de payer un montant, ne serait-ce que pour avoir le droit de réserver un logement. Oui. C'est fou, là, quand même.
Là, on n'est pas là encore.
Ouais.
Tu sais, les grandes villes du Canada qui sont beaucoup plus chères que nous autres. On est quand même la métropole. Je dirais, en Amérique du Nord, on est vraiment... Pour l'Amérique du Nord, je vais prendre une comparaison parce que j'ai des immeubles aux États-Unis qui m'en restent encore. Je regarde ce que je loue, mettons, j'ai des immeubles à Chicago. Là. Je regarde ce que je loue. Ben, tu sais, c'est quand même... les États-Unis, c'est sûr, c'est cher. Mais ici...
Chicago, mettons, par rapport à Montréal, c'est quoi le même logement?
Ben, le même logement, là, mettons, on va parler de 1300, 1400 là, pour un ticket et demi. Là, tu sais, fait que, donc, on met en dollars US. Fait que, tu sais, il faut voir aussi, puis il faut voir le secteur. Là, parle de secteur pas les plus chers en ville. Là, tu sais. Mais si tu vas plus au centre-ville de Chicago, ben, tu vas payer des 3 000-4 000 facilement. Là, tu sais. Ça va avec l'économie puis le secteur dans lequel on travaille.
Au centre-ville de Montréal, pour 1 000 pieds carrés, c'est combien à peu près?
Un pied carré, on va au centre-ville de Montréal, autour de la Tour des Canadiens. Autour des Canadiens, dans le projet Alexander, on parle de 3 200, 3 500, dépendant de l'étage. Et ça, c'est à part le garage qui est 250 $ par mois et à part le locker à 30 $ par mois. Alors, il y a des penthouses dans l'Alexander, parce que je connais bien le projet, qui se louent à 4 000 parce que c'est sur le coin de la rue. Là, c'est quand même... mais ça se loue. Ce qu'ils ont de la misère à louer actuellement, c'est des petits toits et demi parce que c'est un public plus étudiant.
Mais qui loue ça?
Les universités sont fermées. Ben, ça, c'est la bonne question. Il y a vraiment un peu de tout. Il peut y avoir aussi beaucoup de retraités, des gens qui ont vendu, des gens qui voyagent, là, tu sais, des gens qui ont... Quand quelqu'un paye 3 500 $ par mois, c'est la discussion qu'on avait sur Facebook hier, c'était pourquoi quelqu'un paierait 3 500 $ par mois quand il peut s'acheter un logement?
Ben moi, c'est toujours la question, mais on se connaît la réponse. Il faut que tu aies de la liquidité pour le down payment, là, pour la mise de fonds. Il faut que tu aies l'argent. Beaucoup de gens ne l'ont pas, c'est ça le problème.
Ben, les gens l'ont pas ou ils l'ont, puis ils veulent pas l'investir. Ils vont plutôt l'investir dans des voyages. Ils vont peut-être aller voyager. Là, bien sûr, on voyage pas beaucoup. Mais je veux dire, il y a des gens qui ont peut-être plus n'entendre parler. Il y a des gens qui ont été propriétaires de condominiums pendant plusieurs années, puis ils se disent, moi, j'en veux plus rien savoir d'un syndicat, puis c'est ça.
Ouais.
Je vais aller me louer une place, puis là, je vais avoir des problèmes, je vais appeler en bas, puis ils vont venir régler mon problème. J'ai plus à régler des problèmes.
Alors, et sans doute que la pandémie nous aura fait réfléchir. Je lisais un article d'un télétravailleur là, qui était finalement, il s'est trouvé, il y avait un chalet, il a décidé, il se fait une grange, une belle grange qui va être son bureau, puis il est bien, puis plus jamais, c'est bye-bye la ville, là. C'est de ce que de plus en plus de gens vont choisir de faire. Daniel Adam, merci beaucoup. Toujours très intéressant de vous parler. Courtier immobilier agréé, courtier hypothécaire également. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On vient tout de suite après. Alors, évidemment, bon, il y a toujours la section G du bail qui fait beaucoup réagir nos auditeurs. Je vous rappelle que c'est en date d'aujourd'hui, le 31 mars, dernière journée pour donner à votre locataire, si vous êtes propriétaire, un avis d'augmentation de loyer. Si vous êtes locataire, c'est aujourd'hui que vous pouvez également contester cet avis. La section G du bail le dit, là, c'est un avis au nouveau locataire. C'est un avis obligatoire, d'ailleurs, par rapport à ce que le loyer le plus bas payé pour votre logement au cours des 12 mois précédant le début de votre bail. Et le locataire, le nouveau locataire, a jusqu'à 10 jours après la signature du nouveau bail pour faire cette demande même à la régie du logement. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche, Martin Blanchard. Hein? Si on veut informer les locataires là, qui nous écoutent, qui se demandent quels sont leurs recours dans ces cas-là, Martin Blanchard, travailleur communautaire, comité de logement de la Petite Patrie.
Oui, c'est un peu comme ça que ça marche en théorie, mais en pratique, c'est que les propriétaires ne remplissent souvent pas la section G. Et d'ailleurs, on a entendu M. Brouillette appeler les propriétaires à ne pas la remplir et donc appeler à l'illégalité. Et ce qu'on dit aux locataires, c'est envoyer, lorsque vous déménagez, envoyez une copie de votre bail à l'occupant, déposez-le dans la boîte aux lettres ou envoyez-le par la poste pour que le prochain occupant puisse avoir la preuve du loyer payé par le précédent locataire, parce que la loi est inapplicable tant que les propriétaires ne remplissent pas la section G. Et donc, on appelle les locataires là à passer leur bail, finalement, donc à le passer au prochain locataire pour qu'on puisse appliquer la loi.
Faites un appel à la solidarité des locataires.
Exactement, plutôt qu'à l'illégalité des gestes des propriétaires.
Il y a la section F, toutefois, Hans Brouillette, qui dit que si le logement a 5 ans ou moins, là, cette clause-là ne tient pas. C'est la clause F, la section F là, qui s'applique, c'est ça?
Oui, mais juste avant, Mme Maréchal, je ne laisserai pas M. Blanchard déformer mes propos. Ce que j'ai dit, c'est que si vous faites des travaux majeurs ou si votre loyer est nettement bas du marché parce que le locataire a habité là pendant des années, alors la section G du bail, vous ne devriez pas la remplir parce que le nouveau locataire qui a pourtant accepté de signer un bail, par exemple, à 1 000 va vous tromper et pourrait vous faire diminuer le loyer par la suite. Donc ça, pour nous, là, c'est inacceptable et c'est préférable que ce soit ainsi plutôt que d'avoir la nécessité de garder le logement vacant pendant un an. C'est ça que vous voulez, M. Blanchard, que les gens gardent les logements vacants un an? Je pense pas que ce soit ça qui soit souhaitable. Pour ce qui est de la section F...
C'est quand même marqué, là, avis obligatoire du locateur.
Oui, mais le locataire trompe le propriétaire. J'annonce mon logement à 1 000 le locataire le visite à 1 000, il signe à 1 000, et 5 jours après, il court à la régie du logement dire « je veux le loyer, l'ancien loyer qui était à 700 ». On vient de tromper, on vient de vicier la clause.
Mais c'est une clause obligatoire, M. Brouillette, on s'en sort pas. Je comprends ce que vous dites, mais c'est obligé que le propriétaire la remplisse. Prenez-le par le bout que vous voulez, là. Comme pas le choix, là.
Très bien. Remplissons-la, mais abolissons le recours en fixation de loyer.
OK, c'est ça que ça devrait être ça, votre discours.
Très bien. Ouais. Vous voulez savoir quels sont les prix à l'épicerie, quels étaient les prix l'an dernier avant? On voit bien que les prix augmentent. On veut savoir quels étaient les prix. Très bien. Mais ça ne donne pas un recours pour obtenir l'ancien prix. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Donc, moi, je suis bien ouvert pour discuter, pour qu'on ait une obligation avec des pénalités sévères pour ceux qui ne remplissent pas la section G du bail. Mais on va abolir le recours pour le nouveau locataire qui était bien informé de l'ancien loyer et qui a accepté les conditions du nouveau bail et qui va devoir les respecter. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Là, on trompe le propriétaire sur la première clause, la plus importante du bail, dès les 10 premiers jours de la conclusion. Ça commence très mal une relation. Et ça, il y a même des anciens juges de la régie du logement qui me l'ont dit, ça n'a pas d'allure.
Ouais. On a Bruno, vite, Bruno, on termine, il nous reste moins de 2 minutes. Vous êtes propriétaire?
Oui, oui.
En conclusion, vous voulez dire quoi là-dessus?
Je veux dire, à force d'amener des mesures de plus en plus restrictives face aux propriétaires de logements du Québec, à un moment donné, on ne va plus rénover. Il y a beaucoup de propriétaires que je connais qui ne rénovent plus, qui se disent, de toute façon, les loyers montent d'une manière économique, la valeur marchande monte. Donc, quitte à payer des amendes pour quelques réglementations municipales qu'on enfreint parce qu'on rénove plus, on fait quand même beaucoup plus d'argent que si on rénove. Et c'est beau tous ces principes sociaux pour protéger les locataires, mais ultimement, on les protège pas. Quand on veut trop contrôler un marché, il y a des effets pervers. Il y a beaucoup de propriétaires aussi, Mme Maréchal, qui vont discriminer en fonction de l'âge. Ouais. Ils vont se dire parce que justement, à partir d'un certain âge, les locataires ne nous voient pas comme des propriétaires, nous voient comme des concierges. Puis leur vrai propriétaire, c'est la régie du logement. Tandis que les jeunes, eux autres, sont là temporairement. On veut acheter une maison, veulent accéder à la propriété, ils veulent fonder une famille. Donc, ultimement, on discrimine en fonction de l'âge. On peut même discriminer en fonction du genre quand un marché est trop contrôlé. Il y a 2 personnes de 45 ans qui se présentent à notre porte pour un logement en sous-sol. Une femme et un homme. Certains propriétaires, parce qu'on n'a pas un dépôt de garantie, vont prendre la femme. Ouais. Et là, il y a beaucoup d'hommes qui ont la misère. Donc, c'est ça le problème de trop légiférer un marché. À un moment donné, il faut qu'on arrête de mépriser les gens qui veulent faire un peu plus d'argent. Puis il faut qu'on, parce que ça biaise nos politiques.
Merci beaucoup, Bruno. Martin Blanchard, merci d'avoir été là, travailleur communautaire pour le Comité logement de la Petite Patrie. Hans Brouillette, directeur affaires publiques de la Corporation des propriétaires du Québec, merci beaucoup d'avoir été là toute cette heure. C'est un dossier qu'on va suivre, bien sûr, pour vous, auditeurs, puisque vous avez beaucoup de questions encore là-dessus. On aura l'occasion d'en reparler. On se retrouve après les nouvelles. Restez là, tout le monde.